Je vous invite à ouvrir avec moi à nouveau l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Nous allons refaire la lecture de la semaine dernière, apporter des pensées complémentaires et puis on va faire aussi une deuxième lecture après pour compléter. Nous avons commencé la semaine dernière une nouvelle série de messages, une église que j'ai intitulée « Une église selon le cœur de Dieu » et cette nouvelle série de messages s'inscrit totalement dans la vision spirituelle, dans les orientations spirituelles que je vous avais présentées en début d'année. Le but de cette série, elle est extrêmement importante parce qu'elle doit nous amener à construire dans nos cœurs, chacun pour sa part. Elle doit nous amener à construire une bonne vision, et même, je dirais, une meilleure vision, une bonne pour certains, une meilleure pour d'autres, une meilleure vision de l'Église. Frères et sœurs, si nous ne concevons pas l'Église comme Jésus la conçoit, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde que lui. Nous ne pouvons pas la vivre efficacement et nous ne pouvons pas être l'Église que son cœur désire. Nous avons considéré ensemble, je rappelle rapidement, je vois que dans ce temps de vacances, il y a des visiteurs, des personnes nouvelles, soyez les bienvenus, des frères et sœurs qui étaient en vacances, qui sont rentrés, d'autres qui sont partis. Que le Seigneur vous bénisse dans ces temps en repos, ces temps en famille. On a vu que le sens du mot Église, du grec ecclésia, ek, hors de, clisis, appelé, appelé, en dehors de. On a vu que ecclésia, ce ne sont pas des bâtiments, ce n'est pas un édifice matériel, ce sont des personnes qui sont appelées selon le sens du mot ecclésia, parce que ce mot existait déjà à l'époque de Jésus. Jésus lui donne un sens particulier, mais le mot ecclésia existait déjà avant Jésus. C'est le rassemblement de ceux qui sont appelés hors de leur maison, qui sont appelés à se rassembler pour constituer un corps, une unité visible et s'occuper des affaires de la cité. Et Jésus, alors qu'à cette époque, tout le monde connaît déjà le mot « ecclésia » parce qu'il a un sens par rapport à la cité, Jésus dit « je vais construire, je vais bâtir mon ecclésia, mon assemblée, mon église ». Et dans la pensée du Nouveau Testament, évidemment, ce sont des pécheurs qui sont appelés hors de ce monde, ce royaume de ténèbres, en dehors de ce monde de péché, et qui vont être mis à part pour lui. Ils vont être son peuple, un seul et unique peuple, et ils vont le représenter ici-bas. L'Église va être l'expression de son cœur, l'expression de sa vie et des principes. On va exprimer par nos vies qui est Jésus, et puis nous allons nous occuper des affaires de notre Père, des affaires de son royaume. Et nous avions vu ce texte de l'Épître aux Hébreux, sa maison, c'est nous. Nous, c'est qui? Nous, ce sont les disciples de Jésus. Dieu appelle des pécheurs en dehors du royaume de ce monde. Et ce sont des personnes. De quelles personnes parlons-nous? De ceux qui sont sauvés par la repentance et la foi, devenus ses rachetés, ses disciples, qui soumettent leur vie à sa parole. Il y a des critères désormais inscrits dans le livre de vie, citoyens des cieux, habitation de Dieu en esprit, pierre vivante de cet édifice spirituel. Les qualificatifs ne manquent pas dans la parole. Et puis nous avons insisté aussi, tout est en ligne, nous avons insisté sur la différence entre l'Église universelle et l'Église locale. Les disciples de Jésus, automatiquement, quand on devient disciple de Jésus, quand notre nom est inscrit dans le livre de vie, nous avons nécessairement notre place dans l'Église universelle. Automatiquement, nous appartenons à l'Église universelle. L'Église universelle, c'est la totalité des rachetés de toute la terre et de tous les siècles. Ce qui fait que cette Église est déjà miraculeuse, c'est extraordinaire, mais ça lui donne, quand on y réfléchit, ça lui donne des dimensions qui sont vertigineuses. Ce qui fait qu'il va absolument falloir donner à cette Église si vaste, une dimension humaine, une église à taille humaine, pour qu'elle soit plus facilement identifiable et qu'elle soit plus facilement accessible. Et c'est tout le sens et c'est toute la nécessité de l'Église locale qui est toujours le rassemblement des disciples de Jésus, mais cette fois-ci dans un secteur géographique précis, dans une temporalité précise. Et on voit, on a vu ensemble qu'à la lumière du Nouveau Testament, il y a tellement de références, entre 80 et 90 références dans le Nouveau Testament concernant l'Église locale, c'est une évidence. L'Église locale n'est pas une option, c'est la volonté de Dieu. Et on le verra, on l'a vu, on le verra encore dans d'autres passages. Il y a bien sûr une pédagogie divine, il y a une pédagogie de Dieu dans l'Église locale, pour qu'il ait rassemblé autant de gens qui, au final, quand on regarde bien, n'ont rien en commun, si ce n'est l'essentiel, Jésus-Christ, évidemment. Si le Seigneur nous demande ce rassemblement, c'est parce qu'il y a, évidemment, une pédagogie derrière. Ce matin, je relis avec vous Matthieu 16, et puis après, on va faire une lecture dans l'Épître aux Éphésiens. Ce matin, je vous parle de l'origine, du fondement, et de l'impact de l'Église, l'Église qui est un pur miracle. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, et que sur ce roc, sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église, mon ecclésia, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. On va aussi ensemble, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Éphésiens, pour une lecture complémentaire qui va aussi alimenter notre méditation pour ce matin. Éphésiens chapitre 2, verset 19, s'il vous plaît. Ici, évidemment, l'apôtre Paul s'adresse aux disciples de Jésus qui sont rassemblés en église locale à Éphèse. Éphésiens chapitre 2, verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Très important, on en parle tout à l'heure. Pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève, bien sûr, sur cette pierre angulaire et sur cette pierre angulaire uniquement, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et au chapitre 3, nous pouvons aller au verset 8. Chapitre suivant, chapitre 3, verset 8. « À moi, dit Paul, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. » Le mystère caché à ce moment-là ici, c'est l'Église. C'est de ça dont il est question. « Faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. » C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. L'Église est un miracle. L'Église est miraculeuse de par son origine. Jésus dit bien « Je bâtirai mon Église. Je. » L'Église n'est pas une simple association, même si, de par nos lois, nous y sommes soumis selon ce qu'enseigne la parole de Dieu, les Nos associations cultuelles sont constituées en associations aux lois 1905, évidemment, pour être en règle au vu de la législation. Mais l'Église, évidemment, n'est pas une simple association. L'Église n'est pas, excusez-moi, un club de gens qui ont des affinités ou des points en commun. L'Église n'est même pas, si on regarde dans le rétroviseur bibliquement parlant, l'Église n'est même pas l'invention des apôtres. On pourrait le croire, ce pourrait être une tradition historique parce qu'ils ont tellement œuvré pour ouvrir des églises et les implanter dans les années qui ont suivi. Dans les mois et les années qui ont suivi la résurrection et l'ascension de Jésus, on pourrait penser que ce sont les apôtres qui l'avaient voulu ainsi, qu'il y aurait une forme de tradition historique. Mais non, l'Église n'est pas une tradition historique, l'Église n'est pas la volonté des apôtres, l'Église n'est pas une mode, ce n'est même pas un groupement idéologique. L'Église, c'est une institution divine. Amen. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui, dans sa souveraineté, c'est son initiative souveraine, a voulu l'Église. La source, l'origine de l'Église, cette Église trouve sa source dans le cœur de Dieu, dans la pensée éternelle du Seigneur, dans le cœur même de Dieu. Déjà dans l'Exode, Dieu avait appelé un peuple hors de l'Égypte pour être son peuple et le représenter ici-bas lors de la première alliance. Dieu avait toujours voulu un peuple qui le représente sur la terre. Et puis ensuite, son peuple qui était un intermédiaire avec le monde, même si malheureusement on sait que ce peuple a failli de bien des manières, mais je vous l'ai mis ici, Dieu avait toujours voulu un peuple qui le représente. J'ai pas mis les références, pardon. Vous serez pour moi, Exode 19, c'est ce que Dieu dit à son peuple, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Je vous ai appelé hors d'Égypte pour que vous soyez pour moi un royaume de sacrificateurs. » Sacrificateurs, c'est-à-dire, vous avez le privilège maintenant d'être les intermédiaires entre Dieu et les hommes qui ne me connaissent pas. Et puis, l'apôtre Jean dit bien dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1er, « Il a fait de nous, il est bien question de les croyants de la Nouvelle Alliance, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. » Il y a donc bien un peuple qui est constitué sous l'ancienne alliance, sous la première alliance, sous la seconde alliance, un peuple qui est le corps de Jésus, un troupeau, un temple spirituel selon les images, mais qui, la vocation est claire, est destiné à être la représentation visible, ici-bas, du Dieu invisible. Et que le monde connaisse Dieu par l'Église, que le monde puisse voir Jésus par l'Église. Amen. Jésus, si Dieu le Père a toujours voulu un peuple, Dieu le Fils a voulu une épouse, Jésus veut une épouse et c'est là que l'Église trouve son origine dans la personne même et dans l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix. Et c'est là quand on considère, et combien on a raison de le faire, j'espère pas seulement ici mais régulièrement aussi chacun pour sa part, chez nous, dans notre communion, dans notre intimité avec le Maître, quand nous considérons le prix payé à la croix, nous comprenons que Jésus est réellement passionné. Le prix payé me dit à quel point il a voulu l'Église, à quel point il la voulait, à quel point il l'aime, à quel point il la chérit. Il se l'est acquise, disent les apôtres. Acte 20, Paul dit aux anciens d'Éphèse, acte 20, 28, l'Église, prenez soin du troupeau de Dieu, l'Église qu'il s'est acquise par son propre sang, il s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25, Jésus a été jusqu'au bout, il a subi l'injustice ultime, il a accepté d'être le sacrifice ultime, il a supporté l'insupportable parce que Dieu le Fils est le plus grand passionné et le plus grand amoureux qui soit. Il est passionné, il est, pardonnez-moi, hein, Dieu est fou amoureux. Vous avez déjà été amoureux dans votre vie? Oh. Mais vous n'avez jamais été amoureux. Mais mes frères, vous n'avez pas dit amen, là, votre somme, vous allez prendre un grand coup de coude, c'est pas possible. C'est quand même pas possible, t'as pas été un minimum amoureux de moi. Jésus est fou amoureux de vous. Il est le plus grand passionné qui soit. Et c'est la croix qui me le montre. Et le but de Jésus, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera encore, c'est encore et toujours pour l'Église, c'est pour l'épouse qu'il le fait, c'est pour elle qu'il le fait. Le but, c'est l'épouse. L'épouse, l'Église, a une destinée glorieuse. Et il y a bientôt les noces de l'agneau dans le ciel. Et l'épouse et l'époux bien-aimé Jésus seront réunis pour l'éternité. Et il y aura dans le ciel bientôt le plus grand et le plus beau mariage de tous les temps que nous avons jamais vu et que nous avons jamais célébré. Et tout ce que Jésus a fait et tout ce qu'il fait et tout ce qui est en œuvre, pourquoi le fait-il ? Mais Jésus est en train de préparer ses noces. Amen. Et il est en train de nous préparer par le Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a fait, fait et fera encore, c'est toujours, encore et toujours pour l'Église. Il intercède pour nous, il intercède encore et toujours pour l'Église, Romains 8. Il prend soin de son Église, Éphésiens 5. Il qualifie des hommes pour elle, il donne des ministères de la parole. Évangélistes, apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, enseignants. Il donne des ministères pour édifier l'Église, pour amener son Église à la maturité de la foi, et puis à l'unité de la foi. Il nomme aussi le Saint-Esprit. Jésus a donné aussi des anciens dans les églises, des anciens, disent les apôtres, des anciens dans chaque église pour prendre soin du troupeau, pour en prendre soin, pour la paître, pour la chérir, pour la nourrir, pour la bénir, pour veiller, non pas la surveiller, mais pour veiller sur elle, parce qu'elle est tellement précieuse. Et tout ce que Jésus a donné aussi, c'est par amour, c'est par passion, c'est pour l'édification du corps de Christ, pour la maturité du corps de Christ, pour qu'un jour cette Église puisse paraître devant lui, comme dit Éphésiens 5, qu'elle puisse paraître devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, dit Paul, ni rien de semblable, qu'elle puisse paraître sainte et irrépréhensible. Jésus, par le Saint-Esprit, est en train de préparer son épouse pour son mariage. C'est ce qu'il fait, merci Seigneur, amen. Jésus est réellement passionné, je le redis. C'est quelque chose, ce n'est pas une information dans notre intellect. Jésus est passionné de nous, il est passionné de toi, il est passionné de chacun de ses bien-aimés, de ses enfants. Et ça me bouleverse de voir à quel point Jésus est passionné de moi. Ça, il faut déjà l'assimiler. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais en plus, quand j'ai réalisé à quel point il est passionné de moi, et que j'ai réalisé à quel point il est passionné de la personne qui est assise à côté de moi, c'est toute ma conception de l'Église qui change. C'est toute ma compréhension, parce qu'on ne parle pas d'intellect, on parle de révélation. Le jour où je réalise la beauté, la valeur de chaque âme, quelle qu'elle soit, même si elle est compliquée, même si elle est difficile, même si elle a des progrès à faire. Mais oui, bien sûr, amen, et moi, je n'ai pas de progrès à faire peut-être. Et évidemment que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Est-ce que je n'ai pas de progrès à faire? Bien sûr. Mais quand je saisis la beauté, la valeur, le prix de chaque personne dans l'Église et la destinée glorieuse de l'Église, mais ça change ma vision. Ça change mon approche. Il y a un élan qui se passe en moi. J'ai envie d'aimer l'Église comme Jésus l'aime. J'ai envie de lui consacrer, non pas de lui donner un peu de temps, mais j'ai envie de l'aimer, j'ai envie de la chérir, j'ai envie de m'y investir. Et s'il y a des injustices, s'il y a des coups, eh bien soit, parce que je regarde à mon Seigneur et à ce qu'il a souffert. Et quand je regarde ses souffrances et mes souffrances, mais vous savez ce que je fais ? Je me tais et je dis, Seigneur, pardonne-leur, continue de prendre soin de ton Église, sanctifie-la, bénis-la parce qu'elle est plus belle que tout, garde-la parce qu'elle doit être auprès de toi pour l'éternité. Et qu'importe mes souffrances, qu'importe mes déceptions, qu'importe ce qu'on m'a dit ou ce qu'on ne m'a pas dit, qu'importe quand on m'a regardé de travers, qu'importe quand on m'a jugé, qu'importe quand la chair des autres m'a fait souffrir, j'en ai rien à faire. Je suis en guerre contre personne. J'ai donné ma vie pour l'Église parce que Jésus a donné sa vie pour l'Église. Amen. Et ça change ma relation à l'Église. Et du coup, je ne veux surtout plus dire ou faire des choses qui pourraient faire du tort à l'Église de Jésus. Parce que je sais à quel point il l'aime. Donc, prudence. Prudence avant d'agir, prudence avant de réagir, prudence avant de parler, parce qu'en face, j'ai des personnes extrêmement précieuses que le Seigneur a aimées au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Amen. Si Jésus est l'origine de l'Église, et c'est pour ça que l'Église est un miracle, on verra aussi plus tard que l'Église est un miracle par sa composition est unique, et son unicité est unique. Mais si ça c'est pour plus tard, mais si Jésus est l'origine, il est aussi le seul et unique fondement de l'Église. Quelque chose qu'il faut probablement préciser, parce que des religions se sont fortement méprises sur ce texte de Matthieu 16, et puis même si nous avons compris que c'est Jésus qui est le fondement, c'est très facile pour les brebis que nous sommes, inconsciemment, de construire sur des hommes, de construire sur des ministères, de rentrer dans des voies de dépendance. Alors nous ne sommes pas catholiques, nous en sommes parfois bien fiers, disons, ah non, ben nous, on a bien compris, il n'y a pas de papauté, ben non, pas de ça chez nous, bien sûr. Mais force est de constater que parfois la relation à certains hommes de Dieu, en fonction des résultats qu'ils ont eus et pas eus, on les a pris, on les a montés au pinacle, on les a mis sur des piédestals, et puis on ne s'en est pas rendu compte, mais on a construit notre foi, non pas sur la parole de Dieu, mais sur ce que Monsieur Intel disait de la parole de Dieu. Et ça, tôt ou tard, ça coûte super cher. Et c'est en ce sens que nous avons aussi, nous évangéliques, nos propres dérives. Jésus est le fondement avec un F majuscule, le seul et unique fondement, le fondement par excellence, c'est Jésus. Ce n'est pas Pierre, et là tout le monde va dire, ben évidemment, on le savait. Oui, mais ce n'est pas Pierre, mais par conséquent, ça signifie que ce n'est aucun homme. Et voyez, quand Jésus, là il y a eu très souvent des mauvaises interprétations de ce texte, quand Jésus dit, tu es Pierre, il lui dit, tu es Pétros, il désigne bien Céphas, il désigne bien Pierre l'apôtre. Et sur cette pierre, il est en train de dire sur cette pétra, c'est-à-dire sur cette parole que tu viens de prononcer. Le Seigneur n'a rien fondé sur pierre, il n'a rien construit sur pierre, et Dieu ne construit rien sur aucun homme. Les hommes sont des outils qui participent par la grâce de Dieu à la construction de l'Église. Mais Dieu ne construit rien sur aucun homme. Il dit simplement sur cette pétra. Je bâtirai mon église, c'est-à-dire sur cette parole que tu viens de prononcer. Et quelle est cette parole que tu viens de prononcer? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Pierre, tu es Pétros. Et sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire sur cette parole, je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est sur cette parole que je vais construire mon église. Et Jésus, en réalité ici, se désigne comme le fondement suprême de l'église. Et puis ensuite, malheureusement, tellement de fausses interprétations ou d'incompréhensions, je te donnerai les clés du royaume. Ah, du coup, on s'imagine Saint-Pierre qui est à la porte du paradis. Enfin, Saint-Pierre, pas vous, même si vous avez le trousseau de clé. Hein. Mais il est à la porte du paradis, et puis c'est lui qui... Tu rentres pas. C'est lui qui... Non. Jésus a donné les clés spirituelles à Pierre. C'est très simple. Je te donnerai les clés du royaume. Avec des clés, on fait quoi ? On n'ouvre pas le royaume des cieux, c'est Jésus la porte du royaume des cieux, ni personne d'autre. Mais là, simplement, Jésus est en train d'annoncer que c'est sa grâce, il fait ce qu'il veut. Dans sa grâce, il va permettre à Pierre de favoriser l'accès des juifs et des non-juifs. Je te donnerai les clés du royaume, et on s'aperçoit qu'en acte 2, c'est par la prédication de Pierre que le royaume est ouvert aux juifs. Et quand acte 10, vous relirez, par sa prédication, il va ouvrir le royaume de Dieu, l'accès au salut, par sa prédication, acte 2, acte 10. Pierre, par conséquent, oui, a, par la grâce de Dieu, une forme de priorité, pourrons-nous dire ainsi. Il a une forme de priorité, mais il n'a pas la primauté. La primauté, c'est Jésus. La prééminence, c'est Jésus. Le fondement, c'est Jésus. Il a la priorité, mais certainement pas la primauté, et encore moins la papauté. Et aucun homme ne peut être fondement de l'Église. Rien n'est construit sur aucun homme, qui que ce soit, n'importe quel homme de réveil. Jésus est le seul et unique fondement. Aucun ministère, écoutez-moi bien, aucun ministère, quel qu'il soit, peu importe son art oratoire, peu importe les miracles qui sont passés par ses mains, peu importe, aucune église ne devrait dépendre d'un homme, d'un ministère, quel qu'il soit. Aucunement, jamais, c'est super dangereux. Et c'est vrai que des tas d'églises ont été ouvertes par la grâce de Dieu. Certains hommes, oui, bien sûr, la grâce de Dieu est passée par des hommes, mais ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Quels qu'ils soient ces hommes, peu importe les miracles et les prodiges qui ont pu être accomplis par eux, ils ne sont que des outils. Nous sommes, par sa grâce, des outils. Nous bâtissons sur lui, avec lui, par lui et pour lui. Et c'est Jésus. Les hommes sont des outils, les ministères, les outils, les anciens, les ministères, ça va, ça vient. Le Seigneur dispose comme il veut, il aménage dans son œuvre, il est l'architecte, il est le concepteur, il est l'organisateur, il est le fondement, il est la base, il est à l'origine de tout et il est la finalité de toute chose. Et comme on a lu dans Éphésiens 2:20, Jésus est la pierre angulaire, c'est-à-dire que c'est lui le fondement et on bâtit sur lui. 1 Corinthiens 3:11, pardon, je ne l'ai pas mis ici, 1 Corinthiens 3:11, Paul dit que surtout personne n'essaye de poser un autre fondement que celui que j'ai fondé comme un sage architecte, savoir Jésus-Christ. C'est le seul fondement, jamais d'autre, merci Seigneur. Si Jésus est l'origine, s'il est le fondement de l'Église, évidemment, il est aussi le propriétaire de l'Église. Jésus a bien dit, mon Église. Mes frères, que ce que vous nous racontez, c'est tellement évident, on sait bien que l'Église, elle est à Jésus. Ah ouais? Pourquoi? C'est comme avec le pain et le vin. On a des façons de parler qui ne nous aident pas du tout. Ah ben toi, tu vas dans quelle église? Ah ben moi, je vais dans l'église de monsieur un tel. Pardon? Ah oui, mais moi, je vais dans l'église de monsieur un tel à tel endroit, etc. Mais ce n'est pas l'église de monsieur un tel. C'est l'église de Jésus qui se trouve à tel endroit, qui est localisée à tel endroit. Et la façon dont nous parlons peut aussi malheureusement nous induire, la façon dont nous parlons nous amène à nous attacher et à mettre des gens en vue. La seule personne qui doit être en vue, tout le temps, en permanence, de n'importe quelle façon, c'est Jésus et Jésus seulement. Point. Amen. C'est lui. Il est le propriétaire de l'Église. Il est le chef, comme dit Paul aux Éphésiens. Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus, et il a donné Jésus pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, et lui, évidemment, il en est la tête, comme dit aussi l'Épître aux Colossiens, pardon, je ne vous ai pas mis cette référence ici, Éphésiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, pour ceux qui notent. Je termine aussi avec ce point important, afin que nous comprenions bien la valeur de l'Église, et aussi la portée, la dimension, la portée spirituelle de l'Église. C'est justement parce qu'elle est d'origine divine qu'elle va avoir un impact sur terre, évidemment, mais elle a aussi un impact dans les sphères célestes. Évidemment, elle a premièrement un impact sur terre, puisque, enfin premièrement, je commence par là, mais je pourrais commencer par un impact dans les sphères célestes. Elle a un impact sur terre parce que, on l'a compris, c'est le moyen que Dieu s'est choisi, ce peuple qui va le représenter, et il va se rendre visible et il va se faire connaître au travers des vies sauvées, changées, transformées, des couples qui auront été restaurés, des familles, qui auront été restaurés, des addictions qui auront été brisées, des gens qui auront été libérés de la servitude du péché. Et puis ces gens qui ont expérimenté la grâce et la puissance de Dieu vont ensuite les uns les autres, alors qu'à la base, on le verra, ils n'avaient rien du tout en commun, ils n'avaient rien pour se rassembler, vont avoir les uns pour les autres, non pas du respect, mais vont avoir un amour agapé, un amour don de soi, un amour sacrificiel, vont avoir un amour passionnel les uns pour les autres et vont être tellement unis entre eux que le monde dit « Mais qui sont ces gens qui aiment comme Jésus leur prochain ? Qui sont ces gens qui s'aiment entre eux comme Jésus les a aimés ? Mais qui sont ces gens qui se pardonnent comme Jésus pardonne ? Qui sont ces gens qui sont libres, pas libres de faire n'importe quoi, libres de tout ce qui a triomphé de nous dans ce monde, libres du péché ? Quels sont ces gens qui sont libres ? Ah ben ce sont les disciples de Jésus. Ah ben ce sont des chrétiens, ce sont des petits Christ. Parce qu'ils pensent comme Christ, ils aiment comme Christ, ils pardonnent comme Christ, ils se comportent comme Christ, ils ont un amour comme Christ. Et, quand on les voit, on dit « Ah oui, on voit Christ ». Et c'est ça l'impact de l'Église sur la terre. Parce que c'est là, comme ça que Dieu va exprimer son cœur, sa grâce, sa grandeur, sa puissance, sa gloire. C'est aussi l'expression, l'Église visible sur la terre, c'est aussi l'expression de sa richesse et de sa diversité. On en parlera. Des hommes de toute tribu, de toute nation, de toute langue, de toute race, de toute couleur de peau, qui, tous ensemble, alors qu'ils n'ont rien en commun, forment un seul royaume de sacrificateurs. On verra ce point, on le développera, comme je vous l'ai dit, un peu plus tard. Mais par l'Église, la richesse du Dieu créateur est aussi manifesté sur terre. Et puis l'Église a un impact dans les sphères célestes. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Avec l'Église, Dieu manifeste aussi sa gloire dans les sphères célestes. Les dominations et les autorités, on a lu Éphésiens 3:10, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, dit Paul, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Il y a un impact de l'Église dans les sphères célestes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je veux être l'Église. Je ne veux pas aller à l'Église. Je ne veux pas consommer de l'Église. Je veux être l'Église. Et je veux être l'Église au sens où Jésus me le demande. Parce qu'il y a un impact, il y a un enjeu énorme sur la terre. L'image de Jésus va être anoblie, elle va être merveilleuse, elle va être évidente. Ou alors elle va être bafouée en fonction de ce que nous sommes. Parce que, ah oui, il y a un truc que je vous dirais souvent, l'Église ne peut pas être autre chose que ce que tu es. Tu es l'Église autant que moi. Vous êtes l'Église autant les uns que les autres. Et l'Église ne peut pas être autre chose que ce que je suis. Donc quand je comprends l'enjeu qu'il y a sur terre, à être l'Église au sens où Jésus la conçoit, et aussi l'impact dans les sphères célestes, parce que c'est là que les combats, les batailles se livrent spirituellement et qu'elles sont remportées, et bien c'est là que, dans ce monde spirituel, puisqu'il y a un impact, c'est là que je veux aussi être l'Église et je veux que ma vie soit calée, soit alignée sur la pensée de Jésus. Le monde spirituel, ange et démon, le monde de la lumière, le royaume de la lumière ou le royaume des ténèbres sont effectivement affectés. Les anges, dit Pierre, sont dans l'admiration. 1 Pierre 1,12. Vous ne pensiez pas faire l'admiration des anges, hein ? Ben pourtant si. Les anges sont dans l'admiration. Ils savent que c'est par l'évangile que vous avez été sauvés. Et du coup, ils voudraient y plonger leur regard. Mais cela ne leur est pas donné. ça nous est donné à nous. Le monde angélique est affecté. Les anges aussi sont dans la joie quand ils voient une personne qui passe de la mort à la vie, une brebis qui était perdue, qui a été retrouvée par Jésus, qui est inscrite dans le livre de vie, et qu'ils voient cette église, là on parle de l'église locale mais aussi universelle, qui grandit, des millions, des centaines et des centaines de millions de par les âges. Les anges sont dans la joie. Et puis, l'église a un impact sur eux. Hébreux 1, 14, je vous l'ai mis. Qui sont les anges ? Hébreux 1, 14. Ce sont des esprits au service de Dieu qui doivent accomplir un ministère, un service en faveur des saints. Donc, les anges sont aussi mobilisés pour l'église. Donc, voilà en quoi ils sont. Le monde spirituel est affecté. Et puis, les démons, ben, ils se déchaînent. Parce que l'église, cette multitude de gens qui sont rachetés, cette multitude de gens qui sont sauvés, qui sont sortis du royaume de Satan, du ténèbres, qui sont allés à son admirable lumière, qui sont passés du règne de Satan à Dieu, ces démons se déchaînent contre l'Église parce que chaque personne sauvée, chaque personne transformée, chaque personne qui est libre de toute forme de péché, chaque personne qui est libre, chaque racheté, finalement leur échappe. Et c'est amen. Et c'est une perte pour eux considérable et insupportable de voir ces âmes, et ils ne peuvent rien y faire, ces âmes qui passent de la mort à la vie. Donc l'Église a un impact aussi sur le monde démoniaque, parce que l'Église rappelle à Satan, l'Église rappelle aux démons constamment votre présence, votre salut est une insupportation. Parce que vous rappelez, par vos vies nouvelles et transformées, vous rappelez en permanence au monde des ténèbres sa défaite totale, définitive, irrémédiable, pour l'éternité. Et chaque fois qu'il voit un chrétien, il voit Jésus qui a livré, lié les dominations, les a dépouillés, comme dit Paul aux Colossiens, il les a ridiculisés, il les a livrés en spectacle, et Jésus est sorti du tombeau, éclatant de lumière et de gloire, même la mort n'a pas pu le retenir, il sort ressuscité, éclatant de lumière et de gloire, et à sa suite, déjà, tous ceux qui étaient dans l'attente de son sacrifice dans la première alliance sont sauvés par lui. Et ensuite, tous ceux qui, au travers des siècles et des âges, derrière la résurrection de Jésus, ce sont des centaines et des centaines et des centaines de millions qui suivent Jésus dans son triomphe vers le ciel.
Ah, mais je comprends que le diable, il soit un peu énervé. Hein.
Merci Seigneur, parce que l'Église rappelle aux ténèbres leur défaite pour l'éternité, leur jugement pour l'éternité, parce que l'Église porte l'image de Jésus. Et vous savez que le diable déteste tout ce qui porte l'image de Jésus. Il n'est pas tout puissant. Tout ce que je vais dire, c'est sous le contrôle souverain de Dieu. Dieu sait, il a la maîtrise, il s'en sert. Dieu le tient en laisse et c'est lui qui gère. Dieu a la maîtrise absolue, la souveraineté absolue. Mais l'Église porte l'image de Jésus et le diable déteste tout ce qui porte l'image de Jésus. Le diable déteste vos couples. Et c'est à nous de faire attention de ne pas laisser l'avantage à l'adversaire dans nos couples. Chaque mariage chrétien, je disais à des jeunes fiancés il n'y a pas longtemps, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous allez faire. Vous allez annoncer, vous allez confesser chaque mariage chrétien quand des disciples de Jésus se marient, chaque mariage chrétien annonce le plus grand de tous les mariages qui arrivent bientôt. Chaque homme marié symbolise l'époux, Christ, il représente Christ. Chaque épouse représente l'Église dans ce mariage. Ah ben je comprends que le diable n'aime pas les couples chrétiens hein, et que ce soit souvent, très souvent, la priorité dans ses attaques.
Mais il est vaincu. Amen. Tout est sous le contrôle souverain de Dieu. Et puis, cette image de Jésus, cette Église présente sur terre, elle témoigne de son amour, de sa toute-puissance, par le Saint-Esprit tout-puissant qui est en elle. Elle est dangereuse. L'Église est dangereuse. Parce qu'elle a la capacité de dépouiller l'enfer et de peupler le ciel. L'Église a la capacité de dépouiller l'enfer et de peupler le ciel. Amen. Bien sûr que l'Église est dangereuse pour l'ennemi, évidemment. Le diable ne peut, mais bien aimé, je vais terminer avec ça, le diable, il le sait. Le diable ne peut rien contre Jésus. Alors il va faire tout ce qu'il peut pour s'en prendre à ce que Jésus a de plus cher. Bien sûr, toujours, je le redis, sous le contrôle souverain de Dieu. Mais le diable, les forces des ténèbres, vont faire tout ce qu'elles peuvent pour toucher à ce que Jésus a de plus précieux. Et ce qu'il a de plus précieux, c'est vous. Ce qu'il a de plus précieux, c'est moi, c'est l'Église. Et c'est pour ça qu'il y a des attaques sous différentes formes. C'est pour ça qu'il y a, tout de suite après la Pentecôte, des vents violents de persécution, différentes formes de persécution dans toute l'histoire depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours et encore maintenant. Mais aussi de la séduction. Le diable cherche d'une façon ou d'une autre à dénaturer l'Église, à la défigurer, à la corrompre. Comme il ne peut pas la détruire de l'extérieur, on l'a lu ensemble, Jésus a dit, c'est sa promesse, je construis mon Église et les portes du séjour des morts, c'est-à-dire les autorités célestes, démoniaques, n'auront pas l'avantage sur mon Église. Quand vous regardez bien, de par le monde, le nombre de chrétiens, plus de 300 millions de chrétiens qui sont persécutés sous différentes formes, plus il y a de la persécution, plus l'Église de Jésus, elle grossit, elle grandit. Alors comme le diable ne peut pas la détruire de l'extérieur, c'est là que j'ai besoin d'avoir une compréhension de l'Église, une compréhension de ce que Dieu veut, une compréhension de la beauté, de la valeur, mais aussi de la fragilité de l'Église, parce que je n'ignore pas les desseins de cet ennemi. Et quand je vois qu'il n'a pas pu l'attaquer, la détruire de l'extérieur, il va chercher à passer par l'intérieur. Et c'est là que viennent les séductions. C'est là que, tout de suite après Jésus, commencent à foisonner les dérives, les fausses doctrines, comme par hasard. Et c'est là que les épîtres qu'on dit christocentriques ont été écrites pour ramener toujours les chrétiens à la pensée de Dieu, à caler leur vie sur Jésus, le seul et unique modèle suprême, parfait et éternel. Et puis, alors il essaye de l'intérieur. Il essaye de compromettre l'Église avec le péché. Et il y a malheureusement ce que dans les Églises, les uns et les autres, nous tolérons dans nos vies. Même si on l'excuse, de toute façon, est-ce que ça tient aux yeux de Dieu ? Et le diable sait très bien que le péché est une grande source de faiblesse. Tout ce qui est dissimulé, tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est fait ou dit dans le secret, de toute façon, le diable le sait. C'est un moyen par lequel il passe pour affaiblir l'Église et déformer, dénaturer son visage spirituel. Puis il y a les fausses doctrines pour essayer de l'éloigner de l'époux. Puis à d'autres moments, il va exciter, par l'intermédiaire de la nature charnelle, il va exciter l'orgueil, les rivalités, les conflits, les querelles. Il voudrait que les uns et les autres se trompent d'ennemis. Bats-toi contre ton frère, bats-toi contre ta sœur. Pendant ce temps-là, tu es faible, tes prières ne sont pas exaucées, tu as attristé le Saint-Esprit. Vas-y, prie, et même, je vais te dire, jeûne, et jeûne jusqu'à ce que mort s'en suive. Je sais, je suis dur, le diable, il est mort de rire, parce que pour lui, à partir du moment où on arrive à se battre, il arrive à dresser les uns contre les autres, l'Église n'est plus l'Église au sens où Jésus la veut. Donc elle est affaiblie, et à ce moment-là, par l'intermédiaire des querelles, des conflits, des rivalités, quand on s'est trompé d'ennemis, quand, comme dit Paul, on a commencé à lutter contre la chair et le sang, et non plus contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, l'Église a commencé à s'autodétruire. Vous faites attention, bien-aimés. Ce qui tue l'Église, ce qui a fait le plus de dégâts dans toutes les églises de France et de Navarre et du monde, ce n'est pas la persécution. Ce sont les guerres intestines. Parce que partout où il y a eu de la persécution, l'Église, elle n'a fait que grandir. Et de toute façon, si des frères, des sœurs dans la foi, ici, ailleurs, ont laissé leur vie comme martyrs pour Jésus, ils sont partis dans la gloire près du Maître et rien n'a pu arrêter, rien n'a pu stopper l'Église. Elle a continué d'être et elle a continué d'être puissante, partout à la surface de la terre. Mais malheureusement, partout où il y a eu des guerres intestines, où il y a eu des divisions, là, l'ennemi a gagné. Parce que l'Église s'est trouvée défigurée. Elle n'était plus l'Église que Jésus voulait. Le diable a réussi à lui faire perdre sa raison d'être. Et elle a cessé de véhiculer l'image de Jésus. Et c'est ce qui a fait beaucoup de dégâts. Et souvent dans les églises, bien-aimés, on dit « Ah, le diable ! Ah, les démons ! Ah, le diable, le méchant !» Oui, je sais bien, on est d'accord. Pardon, je vais être très méchant. Je parle des églises en général, avec tout ce que je sais, tout ce que j'entends. Ce n'est pas le diable qui est trop fort, bien-aimé. Pardon, ce sont les brebis qui sont trop stupides. Parce que nous lui faisons son travail. Dans les églises, les disciples de Jésus font les choux gras du diable. On lui fait son boulot. Non, il n'est pas trop fort. Il est lié, il est vaincu. Et c'est à nous, par la grâce de Dieu, par l'Esprit qui nous habite, par son Esprit, par sa parole, d'aligner nos cœurs et nos vies sur la pensée de Jésus. Je termine, je conclue, on parlera plus tard de la composition miraculeuse de l'Église, on parlera de l'unité de l'Église, parce que c'est ça la force de l'Église, c'est son unité miraculeuse, spirituelle. On parlera de l'unité de l'Église aussi, mais pour ce matin, peut-être mon frère, ma sœur, tu peux considérer ou reconsidérer à nouveau que l'Église, non pas l'Église où tu vas, l'Église que tu es, est un miracle. Miraculeuse de par son origine divine, que cette Église que tu es, c'est la passion de Jésus, parce qu'il se l'est acquise au prix de sa vie. Cette Église a une destinée glorieuse et éternelle. Et puis tu peux réfléchir et comprendre que cette Église, elle est beaucoup trop belle, beaucoup trop précieuse, elle a beaucoup trop de valeur, une valeur inestimable pour que tu sois léger avec cette Église. Et quand tu as cette révélation, tu feras attention naturellement par amour à tout ce que tu pourrais dire ou faire. Je ne sais pas pour vous, bien-aimés, je sais que c'est votre cœur aussi, je le crois, j'en suis sûr. Moi, je veux être de ceux qui aiment l'Église. Je veux être de ceux qui ne consomment pas l'Église. Je veux être de ceux qui bâtissent avec Jésus l'Église selon ses critères. Je veux être de ceux qui la chérissent. Je veux être de ceux qui en prennent soin. Je veux être de ceux qui sont prêts dans un amour don de soi à se sacrifier, à se donner pour l'Église. Je veux être de ceux qui la voient comme lui, il la voit. Je veux être de ceux qui l'aiment, qui la servent et qui la construisent comme Jésus le veut. Amen. Et là, dans ces conditions, l'Église aura un rayonnement et vivra des choses extraordinaires parce qu'il n'y a aucune limite à l'Église de Jésus quand elle est selon son cœur. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Merci pour votre attention. On se recueille un instant. S'il vous plaît, prions, s'il vous plaît.